Radio Okapi.
Le journal Pascal Masserica.
Les titres de l'actualité, le prix du maïs est revu à la hausse depuis plus d'une semaine à Malembankoulou. La mesurette qui se vendait à 2800 francs congolais se négocie actuellement à 4500 francs congolais. La société civile attribue cette situation à la dégradation des routes. Au Nord Kivu, aucune voie de déviation n'a été envisagée et créée jusque-là sur le pont Loumé effondré depuis le week-end dernier. Cette situation a occasionné également la flambée des prix de produits de première nécessité dans la région. Notre invité, c'est le porte-parole des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF, le colonel Mac Azuka. Il parle de la situation sécuritaire dans les zones des opérations au Nord Kivu et en Ituri et l'effondrement du pont Loumé sur la route Beni-Kassindi qui mène au poste frontalier de Kassindi. Madame, messieurs, bonsoir. Un mot d'économie pour commencer. Dans la province du Olomami, le prix du maïs grain est revu à la hausse depuis plus d'une semaine à Malembankoulou. La mesurette qui s'est vendue à 2800 francs se négocie actuellement à 4000 voire 4500 francs congolais. La société civile attribue cette situation à la dégradation des routes. Cette structure citoyenne redoute la disette dans cette zone essentiellement agricole. Pour en parler, retrouvons Lubumbashi, Jean Ganduka Bongo.
La population de Malembankoulou a pour principale activité l'agriculture. Elle cultive plus le maïs et le manioc qui passent pour les principales denrées alimentaires. La dévastation de ces champs par les éléphants en divagation et le mauvais état de route font que ces produits soient rares sur le marché, indique la société civile locale. En outre, les pluies abondantes qui s'abattent sur ce territoire ont inondé de nombreux champs, notamment ceux de manioc. Conséquence, la récolte n'a pas répondu aux attentes car plusieurs personnes ont perdu leurs investissements. Pour faire face à cette dure réalité, certains opérateurs économiques achète la farine de maïs à Lubumbashi. Là aussi, les choses ne marchent pas telles que souhaitées à cause de la dégradation des routes. Pour la société civile locale, les tronçons Ngo et Amalemba Centre, longs d'environ 80 km, est impraticable. Les véhicules qui s'y hasardent font jusqu'à 30 jours pour atteindre Amalemba Centre. Et les tronçons Kabongo-Malemba est aussi dans un état piteux. Seuls les vélos et les motos transportent les marchandises, dont les produits agricoles au prix d'un immense sacrifice. Cette hausse de prix touche aussi l'arachide, dont le seau communément appelé Meka, qui était à 7500 francs congolais, se vend à ces jours à 11 000 francs congolais. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, aucune voie de déviation n'a été créée jusque-là sur le pont Loumé, effondré depuis le week-end dernier. Cette situation a occasionné la flambée de prix de produits de première nécessité dans la région. Le vice-président de la société civile affirme que des véhicules transportant des produits de première nécessité périssables ont commencé à évacuer quelques marchandises disponibles par la manutention d'une rive à une autre. Germain Kitambala a été joint par Sadiki Aboubakar.
Il y a les manutentionnaires, communément appelés les bombeurs, qui sont en train d'essayer d'aider les gens qui proviennent de Kassindi pour Beni à décharger les marchandises, les différentes denrées alimentaires comme tomates, comme choux, et comme des pinceaux aussi, qui les transportent au dos et ils traversent la rivière. L'eau de la rivière arrive jusqu'à la hache de ceux qui sont en train d'aider la paisible population. Quand une personne veut franchir, ces manutentionnaires-là les transportent au dos et exigent un paiement de 1000 francs pour la personne. Et pour faire franchir la moto, on est en train de demander 2000 francs. Et quant au fardeau, là, ça dépend des kilogrammes que pèse ce fardeau-là. Et voilà, nous interpellons nos autorités d'empêcher un pont de déviation afin que la circulation puisse continuer, d'autant plus que c'est une route nationale. C'est pour cela que nous demandons vraiment à toutes les autorités de s'y impliquer afin que la circulation reprenne comme à l'accoutumée.
Dans une interview accordée à Radio Okapi au début de la semaine, le porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF avait annoncé pour bientôt le début d'une déviation proprement dite. On en vient maintenant à la dégradation de la route nationale qui va de Bukavu à Mwenga au sud Kivu. Certains engins mettent 2 jours pour parcourir difficilement 120 km. En cette période pluvieuse, des chauffeurs passent la nuit en route avant d'atteindre leur destination finale. Le chef coutumier de Mwenga plaide pour l'intervention urgente du gouvernement provincial et national. Le Mwami Lucien Kalenga Riziki est au micro d'Emmanuel Elemejua Kabidi.
La route nationale numéro 2 en territoire de Mwenga se trouve dans un état désastreux. Nous tendons vers la descente aux enfers. C'est cette route nationale numéro 2 qui constitue pratiquement le vecteur principal de l'économie du territoire de Mwenga. Donc aujourd'hui, la population du territoire de Mwenga est gravement affectée par la détérioration de cette route nationale numéro 2. C'est pourquoi je profite pour lancer un appel pressant au gouvernement provincial à pouvoir instruire ces entreprises minières qui opèrent dans le territoire de Mwenga. Elles utilisent des gros engins qui contribuent à la détérioration de cette route nationale numéro 2. Que ces entreprises minières puissent également contribuer à la réhabilitation de cette route nationale numéro 2. Au gouvernement national, la population de Mwenga a longtemps fait retentir la sonnette d'alarme par rapport à l'état de cette route nationale numéro 2. On nous dit que l'année prochaine, c'est l'année électorale. Comment est-ce que la CENI va devoir déployer des kits électoraux en territoire de Mwenga alors qu'il n'y a pas de route?
Autre nouvelle dans l'Équateur, la CENI entend enrôler bientôt plus d'un million d'électeurs dans 746 centres d'inscription prévus contre 618 centres d'inscription ouverts lors du cycle précédent. Les kits achetés par le gouvernement central sont arrivés bel et bien pour déploiement à travers la ville de Mandaka, les 7 antennes de l'Équateur et dans une partie des provinces de la Chuapa et de la Mongala. En dépit de quelques défis logistiques et opérationnels, le secrétaire exécutif provincial de la CENI rassure que tout est fin prêt. Achille Bolekela s'est confié à Paul Richard Malengela.
Devant nos portes ici, vous avez trouvé des camions pleins du matériel, composé essentiellement des kits d'enrôlement, du carburant, de fiches qui seront utilisées dans les centres d'inscription et les kits bureautiques. Nous sommes en train de déployer déjà dans les 7 antennes de la province de l'Équateur, plus 3 antennes de la Chuapa et une antenne de la Mongala. La Sembandaka, c'était Eb. Nous sommes vraiment en plein déploiement. Et demain déjà, nous lançons la formation du nouveau cadre avec les opérateurs de saisie, le président des centres d'inscription, ceux qui vont travailler effectivement. Donc, tout est là, tout est fin prêt. Je vous confirme, mais le 24 décembre, la première carte d'électeur va sortir ici en Mbandaka et dans les 7 territoires de la province de l'Équateur. La toute première difficulté, c'est la difficulté logistique. La voie fluviale coûte extrêmement cher. Ajouté à tout cela, nous sommes au mois de décembre. Il pleut presque chaque jour à l'Équateur. On nous dit que les ponts sont coupés. La plupart des électeurs ne sont pas encore suffisamment informés. Avec la stratégie qui a été adoptée, nous utilisons les agents relais de sensibilisation pour faire une sensibilisation de proximité, de porte à porte, avec le peu de temps qui nous reste.
Politique encore, les habitants de la ville de Bandundu sont appelés à se faire enrôler massivement afin d'augmenter les nombres de sièges dans les organes délibérants. Appel lancé hier mardi après-midi par le président de l'Union des ressortissants de Bandundu lors d'une sensibilisation des jeunes leaders, des représentants des partis politiques et des organisations de la société civile. Les propos d'Eric Kinzambi ont été recueillis par Irène Boma.
Cet échange à ce jour parce que d'abord nous sommes à la fin d'une mandature et nous commençons une autre mandature et nous sommes décidés à ce que notre ville soit valablement représentée à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée provinciale. Parce que vous savez que la ville d'abord n'a qu'un seul siège en national et 2 en provincial. Nous disons non, on nous traite d'une ville politiquement faible, d'une circonscription faible. Alors nous voulons relever les défis. Comme le nombre de sièges dépend du nombre des enrôlés, nous sommes venus réveiller notre population pour qu'ils s'enrôlent massivement afin que nous soyons aussi considérés comme les grandes circonscriptions politiques du pays. Mon message, la population de Bandundu, vous devez vous enrôler. Vous vous plaignez que beaucoup de projets, beaucoup d'avantages politiques, vous ne les avez pas. Vous ne les avez pas parce que vous n'avez pas beaucoup de candidats aux assemblées. L'occasion vous est donnée. Pour que vous soyez représentés efficacement, réveillez tout le monde qui ne se sont pas fait enrôler, à s'enrôler cette fois-là. Empêchez tous ceux qui vont s'enrôler à côté pour qu'ils s'enrôlent là où ils habitent. Pour que cette fois, Bandundu ait de députés, soit valablement représenté.
On enchaîne avec le Nord Kivu où une accalmie relative s'observe depuis quelques jours sur les lignes de front dans les régions de Bambo et Bishusha, chefferie de Bouito, sur l'axe Nguenda, plus au nord de Rutshuru, et sur l'axe sud à Kibumba, territoire de Nyiragongo. Selon des sources concordantes, toutes les forces en présence restent en état d'alerte et consolident leur position. Par ailleurs, la rencontre des autorités militaires de l'EAC, de la CIRGL, des FARDC et de la MONUSCO avec les représentants du M23 lundi dernier à Kibumba suscite de réactions. Certains habitants de la zone pensent que cette démarche peut apporter une solution définitive. D'autres appellent plutôt au retrait total des rebelles du M23. Pendant ces temps, quelques Congolais vivant aux États-Unis d'Amérique ont manifesté hier mardi à Washington où se tient depuis hier le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique. Devant le centre de conférence où se tiennent les assises, ils ont réclamé la paix dans l'est de la RDC. Ils se sont confiés à Cynthia Bachizina Bizana, notre envoyé spécial à Washington.
Nous sommes ici avec nos amis pour soutenir les efforts du chef de l'État afin que, à l'issue de ce sommet, que les leaders africains et américains qui sont ici puissent prendre des résolutions claires et nettes par rapport à l'agression dont la RDC, le Congo, est victime de la part de notre voisin. Nous sommes ici pour demander une justice internationale. Nous voulons que la CPI puisse s'impliquer dans ce qui se passe à la RDC parce que plus de 20 ans, plus de 8 millions de morts, trop, c'est un génocide silencieux et nous voulons que le silence s'arrête, nos mamans sont tuées, sont violées.
Arrêtez de nous violer, arrêtez de violer nos enfants, arrêtez de diviser des familles à cause de ces premiers matériaux qui sont les coltans, les cobalts, les cassérites. On veut qu'on nous laisse en paix, que le Rwanda se retire et que nous puissions travailler dans la paix. Nous les mamans ne sommes pas contentes.
Vous savez que les Français disent que les bons comptes font des bons amis. Nous demandons à la communauté internationale de respecter la République démocratique du Congo. Nous demandons à chacun qui connaît qu'il est ami du Congo, qu'il ne puisse pas venir piller au Congo et ne pas donner au Congo ses droits. Non, trop, c'est trop.
Revenons un instant au Nord Kivu où un mouvement de miliciens Maïmaï est signalé depuis le week-end dernier à Nyakakonde, un village du groupement de Musindi, chefferie de Batangi, territoire de Lubero. La société civile locale s'inquiète face aux exactions commises récemment par d'autres groupes armés actifs dans la zone. La société civile appelle à l'implication des autorités compétentes pour sécuriser la zone. L'administrateur du territoire, le colonel Alain Kiwewa, promet de parer à toute éventualité. Nord Kivu encore, l'armée appelle à la population qui fréquente la route Butembo-Kasindi via Karuruma dans le territoire de Beni à plus de prudence ces derniers jours. Selon le porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF, les combattants ougandais sont en errance ces jours-ci dans les zones des opérations après les bombardements intenses. Il ajoute qu'avec l'effondrement du pont Lumé le week-end dernier, la circulation des usagers pourrait être détournée vers la route qui va de Butembo à Kasindi via Karuruma, d'où son appel à la prudence. Le colonel Mac Azuka est au micro d'André Kitenge.
Avec les conséquences des bombardements de l'aviation et de l'artillerie, des opérations conjointes, l'ennemi est pratiquement en errance. Chaque jour, on est en train d'enregistrer, de capturer, de rendus. Il y a même des leaders qui sont neutralisés, il y en a qui sont capturés. Il y a de cela 2-4 semaines, c'était une période réservée aux bombardements parce qu'on s'est rendu compte que l'ennemi avait une arme redoutable qui est la bombe artisanale. La bombe artisanale ne permettait pas à nos militaires de faire le fouillis et le ratissage. Ça ralentissait la progression, ça blessait énormément nos militaires. On s'est dit, il faut qu'on passe directement au bombardement. Et ça donne des fouilles. Dans la vallée de Mwalika aujourd'hui, après ces bombardements, ils sont pratiquement en errance. C'est chaque jour qu'on est en train de les capturer. C'est aussi une occasion de dire aux usagers de la route Butembo-Kasindi via Karuruma d'être trop prudents. Parce que ils sont en errance, ils ont des blessés, ils sont pratiquement fixés. Alors, comme avec le drame du pont Lumé, la circulation risque d'être détournée plus de ce côté-là. Donc, les gens doivent être prudents.
Début hier mardi après-midi à Bandunduville du procès des présumés assaillants auteurs des violences du territoire de Bagata et à Kwamout. Ces audiences vont se passer en chambre foraine et vont durer au moins 30 jours. C'est ce que nous explique Irène Boma.
Ils sont au total 108 prévenus, présumés assaillants, auteurs de tueries, incendies de maisons et pillages des biens dans plusieurs villages du territoire de Bagata et de Kwamouk, qui vont être jugés lors de ces audiences publiques, y compris 28 hommes en uniforme ayant commis des cas de dérapage. Pour cette première audience tenue mardi à la tribune centrale de Bandundu, 4 agents de l'ordre, dont 3 militaires et 1 policier, ont été appelés à la barre. Il s'agit notamment du policier Muzinga Badi Bilorin, poursuivi par les ministères public pour association des malfaiteurs. Il est accusé d'avoir tué 20 personnes à Bagata. Les militaires Kopos Dialengue Zagiré, poursuivi pour homicide volontaire. Pemule Katoko Tigana, poursuivi pour tentative de meurtre et meurtre. Et Engenga Alphonse, poursuivi pour évasion des détenus. Le tribunal militaire de garnison de Bandundu, Bagata et Maïndombe, siégeant en matière répressive au premier degré en forêt, a procédé à l'instruction d'un dossier et a identifié les 3 autres. Puis l'affaire a été renvoyée au jeudi 15 décembre en cours. Irène Mboma, Bandunduville, Radio Okapi.
Actualité internationale.
L'humanitaire belge Olivier Van de Castel, détenu en isolement en Iran depuis le mois de février dernier, a été condamné à 28 ans de prison, a annoncé sa famille ce mercredi matin. La famille est dévastée, a déclaré à l'agence France-Presse. Olivier, porte-parole de la famille, précisant qu'elle avait été informée par le gouvernement belge. En Ukraine, nouvelle attaque des drones russes de fabrication iranienne ce mercredi matin sur la capitale Kiev. La totalité des drones ont été détruits selon l'armée ukrainienne.
L'invité.
Notre invité, c'est le porte-parole des opérations militaires conjointes FRDC-UPDF, le colonel Mac Azouka. Il parle de la situation sécuritaire dans les zones des opérations au nord Kivu et en Ituri et de l'effondrement du pont Loumé sur la route qui va de Beni et Kassindi qui mène au poste frontalier de Kassindi. Il s'entretient avec André Kitenge.
Lieutenant-colonel Mac Azoukai, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le porte-parole des opérations conjointes FRDC-UPDF. Parlez-nous un peu de la situation sécuritaire ce jour dans la zone des opérations des forces de la coalition.
Vous l'avez bien dit de préciser que nous sommes en opération conjointe avec nos frères d'armes de l'UPDF. Et la zone qui est sous notre responsabilité, la situation est relativement calme. Sinon, on est en train de travailler. Régulièrement, vous suivez des détonations. Nous sommes en train de traquer ces terroristes de l'ADEF. Vous savez qu'ils avaient une armée redoutable qui ralentissait nos progressions, qui blessait nos militaires, à savoir la bombe artisanale. Et nous avons pensé que la bonne façon de la contourner, c'est de procéder par le bombardement de l'aviation et de l'artillerie. Sinon, la situation est relativement calme dans la zone de notre responsabilité. Si je parle de la zone de notre responsabilité, je vois le territoire de Beni et celui du Roum.
Dernièrement, il y a eu des capturés et des rendus. Où sont-ils exactement?
Ils sont dans nos installations. Ils sont en train d'être suivis par nos services limiers, à savoir le service des renseignements. Vous avez assisté à la remise des otages. Les capturés, ils sont là, y compris même les rendus. Parce que ces derniers temps, on assistait à une vague de rendus, de capturés et même de neutralisés. Pourquoi? Parce que le bombardement dans la partie Malika a fait très mal à l'ennemi. C'est pourquoi nous saisissons cette occasion pour dire aux usagers de la route Kassindi, Karuruma, Butembo, d'être trop prudents parce que l'ennemi est pratiquement en errance. Et avec les opérations de ratissage et de fouilles que les FRDC et l'UPDF sont en train de faire dans cette partie-là, l'ennemi est pratiquement enragé, il y a des blessés parmi eux. Et vous savez, quand les gens se trouvent dans cette circonstance-là, ils deviennent méchants. Donc, il faut que les gens soient prudents.
Peut-on s'attendre à un procès public parce qu'il y a eu des rebelles ADF qui ont été capturés, d'autres qui se sont rendus? Est-ce que la population peut s'attendre à un procès public parce que à chaque fois vous arrêtez, mais qu'est-ce que vous en faites?
Bon, pour l'instant, franchement, je suis mal placé pour vous répondre, hein, parce que la décision ne peut pas venir de moi. La décision ne peut pas venir du porte-parole des opérations. Il y a que les autorités qui peuvent décider. Mais sinon, pour nous, nous sommes respectueux du droit de la guerre, du droit international, humanitaire. Lorsque quelqu'un est capturé, même s'il est ennemi, on le traite correctement. Vous avez suivi la remise des otages. Ça a été fait proprement. Lorsque l'ennemi est arrêté, il n'a plus l'arme, il n'a plus la force de se défendre. On le traite humainement. Voilà.
Revenons sur l'actualité. Depuis samedi dernier, il y a eu effondrement du pont Loumé sur l'axe routier Beni-Kassindi. Que compte faire la branche développement et infrastructure des opérations conjointes? Je parle là de l'entreprise Dot Service.
Depuis hier, les ingénieurs de Dot Service sont au four et au moulin. Dans un premier temps, ils vont essayer de dégager le véhicule, remorque. Et je crois que depuis ce matin, ils sont en train de chercher à créer une déviation pour permettre au véhicule de passer. Ça sera un peu difficile dans un premier temps parce que la zone n'est pas tellement bonne. Avec la configuration du terrain, ça va nous prendre un peu de temps. Mais on va faire un effort pour qu'au moins les petits véhicules puissent passer. Ça sera un peu compliqué en ce moment pour les remorques et les citernes. Donc ça sera un peu compliqué dans un premier temps. Mais sinon, Dot va dans un premier temps créer une déviation du côté gauche de la route dans la Banaère et peut-être dans un ou deux mois on va relancer les travaux de la construction de ce pont là parce que c'est la sortie, c'est la porte de la République démocratique du Congo, donc on doit se focaliser sur ça et travailler.
Alors c'est dans une zone où les rebelles ougandais de l'ADF sont très actifs. Comment la sécurité sera assurée sur cette déviation qui devra être créée par d'autres services?
Et ceux qui font régulièrement Beni-Kassindi savent que sur ce tronçon-là, les FARDC et l'UPIDEF font la patrouille chaque jour. Donc le problème de sécurité ne va pas se poser. Parce que c'est justement là où nos militaires sont en train de patrouiller.
Lieutenant-colonel Mac Azoukai, je vous remercie.
C'est moi de vous remercier.
C'était l'invité de Radio Okapi, le porte-parole des opérations conjointes FARDC-UPIDF. Le colonel Mac Azoukai était interviewé par André Kitenge. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.